quatrième et dernier temps de notre semaine consacré à l'histoire des sièges militaires. Après nous être attachés depuis le début de cette semaine à de grands sièges du XXe siècle comme Sarajevo lundi ou encore Stalingrad hier et mardi dans des émissions que vous pouvez désormais télécharger, je vous l'annonce. Donc pendant un an après leur diffusion, nous allons plonger donc 12 siècles avant notre ère à la recherche du siège mythique de Troie. Que sait-on de ce siège de Troie? Que peut-on d'ailleurs tirer des textes homériques qui le racontent et en particulier de l'Iliade? Sont-ils utiles à l'historien, ces textes? Comment sont-ils complétés par les données archéologiques? Comment combattons à cette époque? Les guerriers grecs classiques se sont-ils d'ailleurs servis de l'Iliade pour calquer certains de leurs comportements guerriers? C'est ce que nous verrons en compagnie de Christelle Lepolotec qui a préparé cette semaine avec nous, avec des textes qui seront lus pour nous par Éric Herson-Macarel et ils seront commentés par Patrice Brun. Il est professeur à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Il est auteur de nombreux livres, mais auteur récent d'une bataille de marathon parue chez Larousse. Et avec Bernard Heck, il est professeur d'histoire grecque à Grenoble et auteur très récent d'un livre paru aux belles lettres, La mort rouge, homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne. Que sait-on du siège de Troie? C'est une bonne question, Patrice Brun, pour commencer une discussion sur l'histoire des sièges dans le monde antique.
Certes, c'est une très bonne question. Le problème, c'est la réponse qui est évidemment un peu compliquée. Parce qu'effectivement, nous savons assez peu de choses du siège de Troie par Homère, qui n'en parle pour ainsi dire pas. Nous avons quelques allusions.
Oui, parce que c'est un siège, il faut le rappeler, pour nos auditeurs, qui est censé avoir duré 10 ans. Mais l'Iliade, en fait, ne raconte que la dernière année de ces 10 années.
Non, même pas, quelques jours.
Quelques jours.
C'est entre la colère d'Achille et la mort d'Hector. C'est vraiment très peu de temps. Et dans ces pages-là, enfin dans ces vers-là, Homère parle du siège, bien entendu, mais pas comme on attendrait ou comme on pourrait l'espérer de quelqu'un qui voudrait ensuite rechercher les techniques de siège à son époque, c'est-à-dire au moment de la destruction de Troie vers 1200. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, soit on peut se reporter sur d'autres textes moins connus que l'Iliade, beaucoup moins connus, qui sont en gros ce qu'on appelle le cycle troyen, soit alors de plus en plus...
Qui sont des textes postérieurs.
Hein. On a par exemple l'éphéméride de la guerre de Troie, qui est un texte en latin, qui traduit un texte grec, qui remonte probablement aux alentours de ces années 700-500, mais dont nous n'avons trace que de manière éparse, et par donc cet original latin qui date d'environ de la fin du IIe siècle de notre ère. Et puis, de plus en plus, comme je voulais le dire tout à l'heure, par les recherches archéologiques.
Alors, Bernard Heck, vous avez travaillé donc sur cette question de la guerre, et en particulier de l'homicide, de la guerre et de la souillure en Grèce ancienne pour votre thèse qui a été donc récemment éditée dans la collection Études antiennes aux belles lettres sous le titre de la mort rouge. Est-ce que vous pensez qu'il faut, en tous les cas, si on s'intéresse à ce siège de Troie, imaginer que ce qui a été écrit par Homère est transmis donc jusqu'à nous correspond à une réalité historique, justement, sur l'existence même de ce siège aux alentours de quoi? Du XIIe siècle avant Jésus-Christ?
Oui, bonjour.
Avant notre ère?
Oui, tout à fait. Alors, le siège de Troie a une réalité historique indubitable. Les historiens et les archéologues sont maintenant d'accord là-dessus. Troie est une cité qui a réellement existé. Troie est située à peu près du côté de l'actuel détroit des Dardanelles. Et c'est un site qui a été fouillé dès 1870 par Schliemann, le grand archéologue allemand. Ensuite, il y a eu d'autres fouilles, celles de Dörpfeld, de Blegen, Karl Blegen, l'Américain de Cincinnati. Et ensuite, récemment aussi, de 1988 à 2005, les fouilles allemandes de Manfred Korfmann, qui sont absolument déterminantes. Alors, le site de Troie a vécu, si je puis dire, a existé de 3000 à 1000 avant Jésus-Christ, donc sur 2000 ans. Et à partir de 1000, le site est absolument en ruine. Il est abandonné. Et Homère, écrivant en 750 avant Jésus-Christ, c'est là qu'il compose l'Iliade, il faut imaginer donc une période de 250 ans après Homère, où Troie n'existe plus. De même, par la suite également, Troie sera abandonnée et ne sera de nouveau une ville qu'à l'époque romaine. Et on a découvert à Troyes, en réalité, 7 villes superposées. Enfin, même 10, si on compte la Troie romaine et la Troie byzantine. Et la Troie d'Homère, la Troie dont Homère se fait l'écho, correspond à 3-7-A. 7 en chiffres romains, bon, il y a aussi 3-7-B, 1-2-3, mais enfin, peu importe, ce sont des détails. Et 3-7-A... cette couche, n'est-ce pas, montre nettement des traces d'incendie, de guerre, en quelle année ? À peu près en 1200, en 1200 avant Jésus-Christ. Donc, le siège de Troyes, la prise de Troyes
pourrait avoir eu lieu à ce moment-là.
Oui, ce qui est très important de noter aussi, c'est que jamais dans l'Antiquité, les historiens, les sources anciennes, Thucydide en tête, ne conteste l'historicité de la guerre de Troie. Mmh. Chez Thucydide, au livre 1, c'est très clair. Pour lui, c'est un événement historique, le troisième en importance après les guerres médiques et après la guerre du Péloponnèse. Et Thucydide croit tout à fait en l'historicité de la guerre de Troie, alors qu'il est le premier, d'ailleurs, on le sait, à pourfendre ce qu'il appelle le mutodès, le fabuleux. Mmh. Et pour lui, cela ne relève pas du tout du fabuleux. D'ailleurs, en général, l'Antiquité retient la date donnée par Ératosthène, le grand géographe du IIIe siècle avant Jésus-Christ, 1184.
Donc on est très proche de 1200, absolument. Que vous annoncez ici.
On est assez proche. Et voilà.
On voit bien, Patrice Brun, qu'il y a difficulté de se positionner en tant qu'historien sur des sources comme celle-ci, qui sont des sources dont on sait qu'elles ont été accumulées au fil du temps, que Homère donc est celui ou ce groupe de poètes homériques ou les gens qui rassemblent ces textes comme l'Iliade et l'Odyssée récupèrent des traditions orales antérieures. C'est difficile de se positionner comme historien. Donc c'est vrai que les données archéologiques, les données épigraphiques, s'il y en a, et en particulier peut-être du côté de l'ancienne Anatolie ou du côté des royaumes hittites, permettent à l'historien de se retrouver une base sur laquelle il peut s'installer pour dire c'est vrai ou ça n'est pas vrai.
Alors là, évidemment, si on parle entre c'est vrai et ce n'est pas vrai, là, évidemment, on aura des difficultés
non, mais
à se positionner.
C'est juste pour dire à nos auditeurs qu'on est dans le doute, un grand doute, et que le curseur du doute est assez ample pour que, à certaines périodes, on dise tout ça, ça n'est que du mythe, ça n'est qu'un récit mythique dont il ne faut rien tirer quand on est un historien, sinon de l'histoire des mentalités, de l'histoire des transmissions et de l'histoire des représentations, et d'autres qui nous disent si on peut se fonder sur ces textes-là pour savoir quelque chose de ce qui s'est peut-être passé à cet endroit-là.
Alors, je ne mouillerai pas beaucoup en disant que la vérité est entre les deux.
Hein. Bien sûr.
Par contre, ce qui est absolument certain, c'est qu'effectivement, personne de l'Antiquité grecque ne mettait en cause l'historicité de la guerre de Troie. Thucydide, le premier historien véritablement rationaliste, ne le fait pas du tout, mais en même temps, il ne met pas non plus en doute l'existence du roi Minos, qui, elle, maintenant, enfin, je dirais qu'il sera très, très, très difficile de prouver de manière historique. Donc, il y a, chez les historiens, qui sont parmi les premiers à écrire, il faut bien le dire, une dette évidente vis-à-vis d'une tradition orale. Et c'est cette tradition orale qui, évidemment, c'est, comme toute forme de tradition orale, c'est petit à petit modifiée. Et c'est la difficulté de l'historien. Elle est là, elle est de savoir, d'essayer de faire la part entre ce que nous appelons entre nous les réalia, c'est-à-dire l'existence, je dirais, sur, c'est l'archéologie, et puis les interprétations qu'ont pu en donner les historiens de l'Antiquité elle-même, voire même d'autres auteurs comme les tragédiens, par exemple.
Christelle Le Polothèque.
Dans l'Iliade, Homère privilégie les récits de combat, mais qu'est-ce qu'on apprend concrètement des conditions du siège de Troie, s'il a bien eu lieu ?
Gannarec.
Oui, alors, il faut bien dire que l'Iliade rapporte une partie de la dixième année du siège de Troie, exactement. L'action de l'Iliade se déroule dans un intervalle de 51 jours. Ouais. Exactement.
C'est peu de temps sur un siège qui est censé avoir duré.
Il y a 7 jours qui sont décrits en détail, et parmi ces 7 jours, 4 jours de combat. Oui. Et ces 4 jours de combat occupent, tout de même incroyable, plus des 4/5 de l'ensemble des 16 000 vers de l'Iliade. Mm-hmm. Bon, alors c'est quand même un tour de force de la part d'Homère de nous montrer une crise.
Ce que vous dites, c'est un zoom, en fait. Ce que fait sur une immense crise comme celle-ci,
oui,
Homère, c'est un zoom.
C'est-à-dire qu'il part d'une histoire individuelle qui est la colère d'Achille. la colère d'Achille et ses conséquences et ses 4 jours de combat. Mais il nous rapporte cela avec une telle intensité qu'il nous donne l'impression de rapporter une guerre qui n'en finit jamais, qui dure effectivement 10 ans.
Et d'ailleurs, les guerres dans cette période qui pourrait être celle du XIIIe siècle avant notre ère, Patrice Brun, elles durent comment? On sait que ce sont des campagnes courtes, ce sont des campagnes d'été. Est-ce qu'on en sait quelque chose de cela?
Objectivement, nous n'en savons rien. si l'on prend, je dirais, comme point de comparaison ce que nous savons de l'époque plus tardive, du VIe, Ve siècle, où les campagnes sont là des campagnes d'été, et qui durent quelques semaines à peine, on peut imaginer que nous sommes dans une même situation. Maintenant, un siège, il est absolument impensable de l'imaginer pendant quelques semaines, parce que le principe du siège...
C'est d'affamer ceux qui sont à l'intérieur.
En tout cas, c'est de les empêcher de sortir, et éventuellement de prendre d'assaut, mais de prendre d'assaut, c'est très difficile, enfin, on en parlera sans doute après, et puis, ou alors par trahison, bien entendu.
Alors, Bernard, on ne peut pas, à vrai dire, parler de siège de Troie.
Ça, c'est déjà quelque chose.
Non, pour l'auditeur c'est tout à fait impropre. Vous parlez d'affamer. Il n'est pas question d'affamer les Troyens. Ce problème ne se pose jamais dans l'Iliade. Le problème du ravitaillement. Et Troie n'est à proprement pas parler encerclée. Il y a tout pour faire un siège à Troie, notamment des murailles. Il y a des murailles très, très impressionnantes à Troie. Elles ont été construites par les dieux, notamment par Poséidon. Il y a des tours. Il y a des remparts. Mais cela ne sert pas du tout à la guerre, ou ça ne sert pas du tout à la protection. Il y a deux fonctions des remparts de Troie. Les remparts de Troie ont deux fonctions. Celle d'être d'une part un lieu d'observation des combats pour les non-combattants, notamment les vieillards et les femmes. Et d'autre part, c'est un refuge pour les soldats troyens qui s'enfuient, notamment quand Achille se déchaîne avec ses myrmidons. Mais sinon, ça ne sert pas à la défense, tout simplement parce qu'on a une conception de la guerre à l'époque, c'est-à-dire à l'époque d'Homère. Au 8e siècle, ça c'est relativement indiscutable.
Clarifions les choses, donc Homère raconte quelque chose qui se serait passé au 13e siècle avant notre ère, il le raconte au 8e siècle, et d'une certaine façon, c'est ce qu'il voit et ce qu'il connaît de la guerre à ce moment-là, qu'il décrit peut-être, voilà, avec des restes peut-être de récits qu'il
c'est
a pu
ça.
Récupérer
pour
par ailleurs.
Pour l'essentiel, là, il y a vraiment une unanimité chez les historiens, l'organisation politique, la royauté, la société, etc., l'économie, le mode de combat reflète l'époque d'Homère, c'est-à-dire le 8e siècle. Or, au 8e siècle, on a une conception de la défense qui est très, pas particulière, mais on privilégie d'abord la défense du territoire, et non pas la défense de la ville. C'est considéré comme secondaire de défendre une ville. Et cela relève aussi d'une forme de morale. On bat l'ennemi à la loyale sur le terrain.
Christelle de Polothèque.
On voit de nombreux deuils individuels, mais toujours cette notion de siège, est-ce que la souffrance collective, celle de la population assiégée, elle a sa place dans l'Iliade?
Absolument pas. Il n'y a absolument pas un vers consacré à cette thématique. Au contraire, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, à la fin du chant 7, les Achéens se fortifient, créent un camp. Ils construisent un camp sur la plage où ils se trouvent avec les vaisseaux. Les poupes des vaisseaux sont adossées à des palissades qu'ils construisent. Les soubassements sont en pierre. Et là aussi, c'est très élaboré. Il y a des tours, des portes. Et les Troyens, à un moment donné, poussent très fortement. Et Hector le premier fait une brèche et entre dans ce camp troyen. Donc c'est le paradoxe.
Dans
le camp achéen, pardonnez-moi. C'est le paradoxe, le camp grec, c'est le paradoxe de l'assiégeant assiégé, de l'arroseur arrosé.
Oui, on a déjà vu ça pour Stalingrad, effectivement, avec l'arrivée des troupes allemandes qui, effectivement, finissent par être elles-mêmes encerclées par les soviétiques. Première lecture par Éric Herson-Macarel, c'est juste avant la mort de Patrocle dans le chant 16 de l'Iliade.
Comme l'Euros et le Notos s'appliquent à l'envie dans les gorges d'une montagne à ébranler une épaisse forêt, chênes, frênes, cornouillers au long fût, qui projettent alors leurs longs rameaux les uns contre les autres dans un fracas prodigieux où se distingue le bruit sec des branches brisées. Ainsi, Troyens et Achéens se ruent les uns contre les autres, cherchant à se déchirer sans qu'aucun des deux parties songe à la hideuse déroute. Autour de Cébrion, par centaines des pics aigus viennent se planter au but, ainsi que des flèches ailées jaillies de la corde d'un arc. De grosses pierres, par centaines, vont heurter les boucliers de tous les hommes qui luttent autour de lui, tandis que lui-même, dans un tournoiement de poussière, est là, son long corps allongé à terre, oublieux des chars à jamais.
Alors là, on voit bien, enfin, on imagine bien qu'il n'y a pas que des duels dans l'Iliade. Il n'y a pas que Achille et Hector. Là, on voit une sorte de mêlée confuse avec ces javelots qui sont très nombreux sur ce terrain de bataille, des flèches ailées et des grosses pierres. Ça veut donc dire qu'il y a donc des moments de mêlée importants dans cette guerre du 8e siècle, puisque c'est au moment où l'écrit Homère, ou le décrit Homère, que on pourrait imaginer qu'il y a eu des scènes de ce type, Patrice Brun et puis Bernard Heck.
Là encore, on voit tout dans ce texte, que c'est un très bon texte d'ailleurs pour notre problème, notre problématique. C'est qu'il y a de tout. Il y a effectivement du 8e siècle, et puis il y a aussi du plus ancien. Il y a l'allusion au char. Au 8e siècle, le char a totalement disparu de la guerre. Mmh. Il n'a pas disparu, on le voit bien, les jeux, les concours olympiques les plus connus ont des épreuves de char. Mais effectivement, la guerre au 8e siècle n'est plus ou n'est pas une guerre individuelle, elle est une guerre collective. Et cette impression de mêlée qui est donnée, amplifiée évidemment par le poète, ressemble évidemment au choc des deux phalanges que l'on voit à partir de l'époque archaïque.
Oui, Bernard Heck, alors, état de la guerre au XIIe siècle ou état de la guerre au 8e siècle dans ce qui est décrit dans ce texte-là ?
Au 8e siècle, indiscutablement. Bon, pour en revenir à la question du char, le char, c'est l'exemple type d'un souvenir mycénien. Mais là aussi, tout à fait modifié dans la mesure où le char, qui est attesté chez les Mycéniens,
comme objet de combat.
Sert au combat. Mais chez Homère, il a un rôle très marginal dans le combat. Parfois, il est utilisé quand on fuit ou pour pourchasser un fuyard, mais fondamentalement, il est utilisé en quelque sorte pour le transport. Le compagnon du chef, du roi aristocratique qui va combattre, n'est-ce pas, le compagnon conduit sur son char, sur le terrain, le chef, les aristoïs, n'est-ce pas, les guerriers. Et accessoirement aussi, il peut servir d'ambulance. Quand il y a un blessé, on le met sur le char et on le conduit vers les lignes arrières. Mais dans l'ensemble, le mode de combat est celui du 8e siècle. Et il a été très bien analysé d'ailleurs par un grand historien allemand, spécialiste de l'épopée homérique, qui est Joachim Latax. Et qui montre bien qu'il y a, pour schématiser, à peu près trois phases dans le combat homérique. D'une part, un combat de masse mais de jet. Massenakampf, comme dit.
Donc de jet des pierres,
on
des,
lance
flèches,
des flèches, des javelots. Des lances, des javelots, beaucoup de flèches, des pierres aussi. Et les soldats sont regroupés dans ce qui est fondamentalement, ce qui est l'unité vraiment de l'armée, à savoir la phalanx, la phalange. C'est un terme qui est déjà employé chez Homère, les phalanges qui sont rangées en stiches, c'est-à-dire en rang. Mm-hmm. Les soldats sont rangés en rang dans les phalanges.
Et donc ce qui est l'ancêtre de ce qu'on appellera la phalange hoplitique.
Voilà, un
etc.
premier stade de la phalange hoplitique. Et de cette phalange qui peu à peu se rapproche, tout en lançant, n'est-ce pas, des armes de jet, des flèches, etc., se détachent ceux qui sont au premier rang, qui sont les plus valeureux, ceux qu'on appelle les promakoi, c'est-à-dire ceux qui combattent devant. Et parmi ces promakoi figurent les grands héros, Achille, Ajax, etc., mais aussi d'autres, parce qu'il est très important de noter qu'il y a une conception de l'arete qui est peut-être un petit peu mal pensée parfois, de l'arete, c'est-à-dire de l'excellence, de la bravoure, qui est peut-être mal pensée, c'est-à-dire que la bravoure devrait être normalement l'apanage des aristoïs, des meilleurs, des rois. Mais il est aussi dit clairement dans beaucoup de passages que l'arete s'acquiert, que ça relève d'un certain mérite. Phénix, d'ailleurs, qui est le précepteur d'Achille, le dit bien, qu'il lui a appris l'arete, il lui a appris la bravoure. Donc parmi les promakoi figurent non seulement des membres de l'aristocratie, mais aussi des soldats, de simples soldats qui sont les plus valeureux, les plus courageux.
Ça, c'est le deuxième temps.
Et cela, au deuxième temps, se dégage donc. Se dégage de la première ligne.
Et pratique un duel.
Et voilà, pratique un duel. Et c'est ce duel qui est largement hypertrophié par Homère, qui en fait véritablement un usage poétique. Et cela aussi, notamment pour satisfaire son public. Et par là, il invente en quelque sorte ce que les cinéastes appellent le zoom. Il fait un focus, n'est-ce pas, les flèches continuent à pleuvoir. Et ensuite, peu à peu, les promakoi se retirent. Troisième temps. Et c'est non plus le Massenwurfkampf, comme dit Latax, mais le Massennahkampf, le combat de masse de près, le choc des phalanges, la mêlée que vient de décrire.
C'est une sorte de balai donc, qui partirait d'une masse de la mêlée, passerait ensuite à une
sorte de
combat au corps à corps de quelques personnes pour finir ensuite
si vous voulez, par les une corps sorte à corps de... Et alors là, c'est la confusion la plus absolue et c'est un bain de sang. C'est un bain de sang.
Alors, deuxième texte qui va nous être lu à l'instant même par Éric Herson-Macarel, évidemment, la mort d'Hector, telle qu'elle nous est racontée dans l'Iliade.
Ainsi dit Athénée, et perfidement elle lui montre le chemin. Ils marchent l'un sur l'autre et entrent en contact. Le grand Hector, au casque étincelant, alors le premier dit « Je ne veux plus te fuir, fils de Pélée, c'est fini. Si j'ai fait 3 fois en courant le tour de la grande ville de Priam, au lieu d'oser attendre ton attaque, cette fois, en revanche, mon cœur me pousse à t'affronter. Je t'aurai ou tu m'auras. Allons, prenons ici les dieux pour garants. Ils seront les meilleurs témoins et gardiens de nos accords. Je ne songe pas, pour ma part, à t'infliger de monstrueux outrages, si Zeus m'octroie de tenir bon et de t'arracher la vie. Mais au contraire, quand je t'aurai pris tes armes illustres, j'entends rendre ton corps, Achille, aux Achéens. Fais donc, toi, de même. » Achille, aux pieds légers, sur lui lève un œil sombre et dit « Hector, ne viens pas, maudit, me parler d'accord. Il n'est pas de pacte loyal entre les hommes et les lions, pas plus que loup ni agneau n'ont des cœurs faits pour s'accorder. Sans relâche, au contraire, ils méditent le malheur les uns des autres. Il ne nous est pas permis davantage de nous aimer, toi et moi. Aucun pacte entre nous n'interviendra avant que l'un des deux n'ait, en succombant, rassasié de son sang Arès, l'endurant guerrier. Rappelle-toi donc toute ta vaillance. C'est bien maintenant, si jamais, qu'il te faut être un combattant, un guerrier intrépide. Il n'est plus pour toi de refuge. C'est à l'instant même que Pallas Athénée te va dompter sous mon bras. Et tu vas payer d'un seul coup tous les chagrins que j'ai sentis pour ceux des miens qu'a tué ta pique furieuse. »
Christelle de Polotech.
La question dans ce passage de l'accord, du compromis, est déjà présente. Là, il s'agit simplement de ne pas avoir d'outrage au cadavre, ce qui va pourtant arriver par la suite. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'Iliade, l'accord face au désir de vengeance. Est-ce que c'est quelque chose qui était présent à l'époque d'Homère, ou c'est vraiment une problématique qu'on peut faire remonter auparavant?
C'est assez difficile à dire. Si on parle d'époque d'Homère, on va dire le 8e siècle et les siècles qui ont suivi, les 2-3 siècles qui ont suivi, il est tout à fait évident que ce type d'accord existait, sinon dans une règle écrite, du moins dans une pratique. On n'outrage pas les corps, on rend les corps à l'ennemi après le choc. Ça, c'est une chose, je dirais, qui est unanimement acceptée. Elle est, comme toute règle, elle a un certain nombre, je dirais, d'exceptions et qui viennent parfois des Grecs. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on voit que celui qui est l'asiatique, si on peut utiliser ce terme, Hector, pratique une morale, si on peut utiliser ce terme, une arrêté qui est parfaitement grecque, alors qu'Achille se comporte en véritable barbare. En véritable barbare. Et c'est ainsi, par exemple, l'outrage des corps, c'est ce que fait par exemple Xerxès au corps de Léonidas, qui a interrompu sa marche au moment des Thermopyles. Il y a donc là, je dirais, de la part d'Hector, un manifeste, si je peux dire, un manifeste grec, un manifeste qu'on va utiliser le terme homérique, le véritable héros homérique dans l'affaire, c'est Hector.
Ce qui est intéressant, Bernard, quand on entend ces textes, c'est de se demander s'ils étaient aussi, ou pas du tout, des manuels de comportement pour les guerriers de l'époque. C'est-à-dire, est-ce que ces textes sont là pour dire une sorte de vision du monde globale, raconter une histoire ou des histoires à ceux qui les écoutent, ou est-ce qu'ils ont par ailleurs une sorte de fonction de manuel du guerrier, comment bien se comporter quand on est sur un champ de bataille au 8e siècle, quand Homère récupère donc ces traditions homériques?
Oui, c'est à la fois l'un et l'autre. Alors, je reviens sur l'outrage au cadavre. Il y a un certain nombre de scènes relativement nombreuses dans l'Iliade où il y a des combats autour des cadavres. Alors, d'une part, il y a un camp qui veut récupérer le cadavre, finalement, pour qu'il soit dans le moins mauvais état possible. Mm-hmm. Parce qu'il est très important de préserver le cadavre. Et le cadavre d'Hector est mutilé, mais ensuite, miraculeusement, les plaies sont refermées grâce aux dieux. Et d'un autre côté, vous avez le camp adverse qui veut récupérer un cadavre pour les dépouilles, c'est-à-dire pour prendre les armes. Mm-hmm. Parce que ce qui est pris à l'ennemi sur le champ appartient au soldat lui-même. Bien. Alors.
Sur le caractère de modèle ou de modèle guerrier.
Oui, alors.
Le type de comportement qu'il faudrait avoir sur un champ de bataille et qui pourrait être.
Ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait juste. Bien entendu, ici, Achille est, disons, le sauvage. Non, je n'emploierai pas le terme barbare, parce que ce n'est pas un concept homérique, c'est bien plus tardif, mais c'est lui le sauvage. Et Hector, c'est tout à fait lui qui se comporte en grec. D'ailleurs, au demeurant, les Troyens forment un monde parallèle avec les Achéens. C'est le même monde. Ils honorent les mêmes dieux, d'ailleurs. Ils honorent Apollon, Zeus. Bon. Mais cela dit, Achille est, et j'insiste là-dessus, c'est véritablement un être à part. C'est un héros particulier sur lequel Homère insiste beaucoup, naturellement, mais il lui invente en quelque sorte un destin tragique. Il n'a rien à voir avec les autres combattants. C'est le seul qui est à Troie pour mourir et qui sait qu'il va mourir. Les autres n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Donc Achille, c'est vraiment...
Ils tenteront de le faire, ils mettront du temps, mais ils tenteront de le faire.
Ce qu'on a appelé par la suite le berserker, c'est-à-dire le guerrier fou, celui qui est possédé par le délire du champ de bataille. C'est quand même un cas relativement particulier. Et là, son comportement, du coup, est absolument excessif, notamment dans l'outrage qu'il inflige. Et c'est certainement pas un modèle de comportement pour les Grecs, bien entendu.
Christelle de Polotec.
On peut voir dans cette figure du berserker son fils Pyrrhus également, ou Ajax. Il y a d'autres figures.
Oui, de ce point de vue-là, la tradition postérieure, dans la tragédie française du XVIIe siècle, est tout à fait dans la lignée homérique. Le fils ressemble à son père, Néoptolème, Pyrrhus, n'est-ce pas, qui est lui aussi une espèce de sauvage. Et c'est lui qui va tuer d'ailleurs Priam.
Mais qui est clairement dévalorisé, alors qu'Achille n'est pas franchement dévalorisé dans l'Iliade.
Dans ce passage, il est dévalorisé, certainement.
Patrice Brun.
On ne saurait dire que Achille est un héros homérique. Il est tout à fait évident, au sens de héros positif. Ça, c'est tout à fait net.
Il sert de quoi? De repoussoir, non?
Non, non, pas de repoussoir, mais de cas exceptionnel. Puisqu'il ne faut jamais oublier que les vers d'Homère de l'Iliade tournent autour de la colère d'Achille. C'est-à-dire, ce n'est pas un comportement grec, justement, qu'il faudrait, une forme de morale grecque, être capable de dépasser cette colère. Car en fait, cette colère est une colère qui vient d'une esclave qui lui a été enlevée par Agamemnon. Il n'y avait peut-être pas là, de quoi faire tout ce que Achille a fait par la suite. Mm-hmm. C'est le moins que l'on puisse dire. Maintenant, pour répondre à votre question, code de conduite, je ne suis pas certain que c'est un code de conduite pour le 8e siècle. Par contre, on voit très bien que c'est un code de conduite pour un certain nombre de guerriers de l'époque postérieure.
Classique ?
Classique.
C'est-à-dire au 5e siècle ?
Au 5e ou 4e siècle. Je pense qu'il est tout à fait clair que des gens comme Alexandre se sont sentis possédés de l'Iliade. Et ce n'est pas un hasard si d'ailleurs il a fait suivre l'Iliade et l'Odyssée dans son expédition qu'il a menée en Orient et en Extrême-Orient. Donc il y a effectivement, une appropriation par les Grecs de ces codes. Et le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, que les enfants apprenaient à lire et à écrire dans l'Iliade et l'Odyssée, était aussi quelque chose de très, très important.
Alors, vous avez évoqué Pyrrhus, le fils, d'Achille. Vous êtes rendu pour un reportage pour cette émission, donc Christelle de Polotec, au Louvre, avec une chercheuse qui n'est pas une historienne, à proprement parler, de la Grèce ancienne, mais qui est une historienne, et en particulier une historienne de la littérature classique et du théâtre classique français. Elle s'appelle Tiphaine Carcinti. Et vous avez fait une petite balade au Louvre dans un tableau du XVIIe siècle, je crois, qui raconte justement ces histoires-là, ces histoires troyennes, qui sont si nombreuses dans notre histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait sa thèse sur le mythe de Troie dans le théâtre classique français.
Absolument, qui est d'ailleurs paru cette année chez Honoré Champion. Et donc nous l'avons retrouvée devant ce tableau que je vais lui laisser le soin de nous faire découvrir.
C'est un tableau de Giambattista Pittoni, un peintre vénitien du XVIIIe siècle, qui représente Polyxène devant le tombeau d'Achille. Alors Polyxène est la fille d'Hécube et Priam. Cette scène se situe après la fin de la guerre de Troie, donc après la chute de Troie, une fois que tous les hommes de la famille sont morts, Priam est mort, Hector est mort notamment. Et Polyxène est ici conduite vers le tombeau d'Achille par Pyrrhus, qui est le fils d'Achille, et qui dans ce tableau semble être un guerrier presque amoureux qui tient galamment la main de la jeune fille en lui désignant ce tombeau comme un monument à visiter. Or, en réalité, dans le mythe, Pyrrhus est en train d'emmener Polyxène au sacrifice, puisqu'il s'agit pour lui de sacrifier la jeune fille sur le tombeau de son père, puisqu'Achille est apparu aux soldats grecs sous la forme d'un fantôme pour réclamer la mort de cette jeune fille. Depuis la recréation de la tragédie en France, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, jusqu'à la première moitié du XVIIe siècle, sur toute cette période moderne, dans le théâtre, Pyrrhus, c'est l'incarnation de la guerre. C'est une sorte de réincarnation hyperbolique de son père, Achille, qui était déjà présenté comme un guerrier violent. Mais Pyrrhus, c'est le guerrier du carnage de Troie. Et à plusieurs reprises dans le théâtre, en particulier à la fin des guerres de religion, à la fin du XVIe siècle, on trouve des pièces qui s'intitulent Pyrrhe, donc qui ont pour personnage éponyme ce fils d'Achille, et qui représentent sous forme dramatique la fin de la guerre par la mise à mort du personnage. C'est vraiment l'incarnation métaphorique de la guerre.
Alors on voit bien, et c'est ce qu'elle raconte dans cette thèse donc publiée chez Honoré Champion, le mythe de Troie dans le théâtre français, on voit bien que on a tenté tout au long de la période moderne en France d'adapter notre vision de Troie aux évolutions de la classe politique, de ce qui se passait en politique dans notre pays, ainsi depuis les guerres de religion jusqu'à l'absolutisme.
Quelle place a la guerre de Troie dans ce théâtre-là ? Est-ce que c'est une vraie mise en perspective avec les événements qu'il y a à l'époque, ou c'est plus une vision là aussi idéalisée et mythifiée ?
La guerre de Troie est vraiment utilisée comme un matériau pour penser le contemporain, ou pour en tout cas refléter des discours contemporains. Alors il y a différentes périodes. Pendant cette période des guerres de religion, c'est la question politique du sortir de crise. Comment terminer la guerre alors que deux logiques s'affrontent dans la France de l'époque, une logique ligueuse dogmatique et une logique rationnelle, une logique de compromis qui considère que le rôle de l'État est d'abord de rendre possible la paix civile, quels qu'en soient les moyens. C'est celle-là qui finira par l'emporter avec Henri IV. Mais pendant toute la période qui précède, le théâtre met souvent en scène une opposition entre, par exemple, cet Hécube, ce personnage de reine, de femme passionnée qui est prête à venger la mort de ses enfants sans suivre d'autres principes que celui de sa passion vengeresse, et Priam, le roi, qui lui est présenté comme un roi raisonnable, un roi rationnel, qui est prêt à faire des compromis. Et l'un des compromis possibles, un des épisodes qui permet souvent de représenter ces questions, c'est celui de la mort d'Achille, qui précède donc cet épisode de la mort de Polyxène, puisque Achille tombe amoureux de Polyxène dans un certain nombre de versions du mythe et va proposer la paix aux Troyens. Et donc, le camp troyen est souvent divisé entre Priam, qui veut l'accepter, Hécube, qui ne veut pas l'accepter. Finalement, les Troyens acceptent, mais Hécube a dissimulé sa véritable intention. Et au moment où Achille va épouser Polyxène, ou bien au moment où il va lire une lettre qui concerne Polyxène, les frères de Polyxène, Paris et Déiphobe, l'assassinent traîtreusement dans le temple, par exemple. Donc, cette mort d'Achille, elle représente souvent l'échec de la solution de compromis qui va finalement être celle que la France mettra en œuvre au profit d'une solution ligueuse, passionnelle, qui, au fond, conduit à la tragédie, donc à l'échec. Donc, c'est une espèce d'envers de la réalité politique qui est représentée par la tragédie. Et dans les tragédies, on observe quelque chose de très net, c'est que pendant toute la période des guerres de religion, jusqu'environ 1610, le point de vue est toujours celui des Troyens, ce sont toujours les Troyens qu'on voit essentiellement. Et puis, à partir de 1620 à peu près, le point de vue est d'abord celui des Grecs, donc celui du peuple vainqueur. On a vraiment le point de vue des victimes, puis le point de vue des vainqueurs. Et quand on est dans le point de vue des vainqueurs, la question qui se pose, c'est celle du modèle politique. Et il y a deux modèles qui s'affrontent, celui du guerrier, qui est souvent incarné par Achille à nouveau, et celui du sage, du prudent, qui est plutôt incarné par Ulysse. Et donc, il y a plusieurs pièces qui mettent en scène l'opposition de ces deux modèles, et c'est finalement Ulysse qui l'emporte, qui est une façon de dire que le nouveau modèle, ça n'est plus celui du guerrier chevaleresque qui incarne l'éthique aristocratique médiévale, mais c'est celui du prudent, du conseiller du prince qui est incarné par Ulysse, celui qui applique des principes rationnels, les principes de la raison d'État, qui est capable de dissimuler au nom de la raison d'État. Et ça, ce sont toutes les théories qui sont développées à cette époque-là, notamment héritées de Machiavel.
Voilà, donc pour ceux qui voudraient se rendre au Louvre, c'est du côté du pavillon Denon, c'est
dans
ça
l'aile de nom.
Dans l'aile Denon du Louvre, pour voir ce tableau donc, qui représente cette scène donc, telle qu'elle a été décrite au XVIIe siècle. Et puis pour ceux qui voudraient aller plus loin avec Tiphaine Carcenti, avec sa thèse, Le mythe de Troie dans le théâtre français, c'est publié chez Honoré Champion. On voit bien la force du mythe de ce siège de Troie, de cette guerre de Troie, de cette Iliade, mais également de cette Odyssée, Patrice Brun, par le fait qu'on en parle encore avec une passion constante au XVIe, au XVIIe siècle et encore aujourd'hui. Vous avez cité Alexandre auparavant, mais on n'a jamais cessé de se référer à ce mythe-là.
On n'a jamais cessé. Quand on regarde le théâtre essentiellement athénien du Ve siècle, le cycle troyen est permanent.
Et considérable.
Il est considérable. Je veux dire, il n'y a même, non pas que lui, mais en fait quand même. Vous avez l'avant-guerre avec Iphigénie Aulis. Vous avez la guerre avec les Troyennes, avec Ajax. Et puis, bien entendu, vous avez l'après-guerre avec toutes les tragédies des Atrides. Et on voit bien, effectivement, que c'est un... Je dirais, on peut dire que la guerre de Troie, pour utiliser une expression désormais célèbre, est un petit peu la mère de toutes les batailles. Et c'est ce qui a donné une... Elle a donné une intensité de part, je dirais, l'impact poétique de cette œuvre extraordinaire a donné, évidemment, a été une mine extraordinaire de renseignements et d'interprétations.
Bernard Heck, on voit bien qu'il y a difficulté, on l'a expliqué, à se référer à ce texte, comment s'y référer, etc. Mais ce qui est le plus fort dans ce texte, c'est sa puissance poétique, c'est son récit, c'est la façon dont il présente les personnages. On s'est posé la question tout à l'heure de savoir s'il y avait des modèles de la guerre à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'il dit des règles, ce texte d'Homère ? Est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple ? Vous évoquiez tout à l'heure ces promacoi, le courage, leur capacité à aller de l'avant, etc. Et il donne des règles ou il n'en donne pas ?
Oui, Homère donne des règles. Il en donnait déjà aux Grecs, certainement. Et on devait lire aussi certains textes et peut-être pas d'autres. C'est-à-dire qu'est mise en avant dans l'Iliade des qualités fondamentales, la première étant celle du courage. Le courage... Le courage au combat, le dépassement de soi. Et il est certain que des personnages comme Achille, dans une certaine mesure, Hector, Ajax et tant d'autres, ce sont des modèles de comportement. Et chaque société cherche des modèles. Mmh. Et à ce titre-là, c'est à ce titre-là que l'Iliade a été lu autrefois et sera toujours lu. Ouais. Maintenant, il y a naturellement des passages qu'on occulte aussi.
Qu'on préfère ne pas lire.
Par exemple, personne ne connaît Pénéléos. Pénéléos, c'est un Achéen qui tue un Troyen de manière absolument abominable. Il prend sa lance, il lui perce un œil, cette lance reste dans son œil. Ensuite, il décapite avec son épée et il brandit avec sa lance. Et au bout, il y a la tête, n'est-ce pas, du Troyen. Et il la brandit, comme dit Homère, comme une tête de pavot. Et les Troyens voient ça, sont absolument épouvantés.
Dans votre livre La Mort Rouge, vous insistez justement sur certaines de ces scènes qui n'ont pas été vues, voilà. Pas été lues par le théâtre classique ou par d'autres moments, parce qu'ils ils ne correspondaient pas à l'image qu'on voulait se faire justement de ce qu'était.
Et c'est tout à fait normal. On cherche le beau, on cherche le positif, comme on dit, chaque société cherche cela. Mais ce qui est très intéressant chez Homère, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est qu'Homère nous fait part aussi dans l'Iliade d'invariants, de comportements invariables, éternels, anthropologiques, et qui relèvent de la guerre éternelle dans toute son horreur.
Christelle de Polotec.
Mais dans l'Iliade, la violence est aussi métaphorisée, on va dire. Je pense par exemple, au lieu d'employer le terme de lapidation, Homère va faire dire à Hector qu'il souhaite que Paris soit revêtu d'une tunique de pierre.
Oui, c'est un moment particulier de l'Iliade où Hector, plusieurs fois d'ailleurs, s'énerve, pourrais-je dire, contre son frère Paris, qui est particulièrement lâche, ce qui irrite Hector. Et il parle effectivement métaphorique. Mais c'est un passage assez particulier tout de même.
Et il y a d'autres moments où ça n'est pas métaphorique, comme vous le racontez.
Et là, c'est un souhait. Il souhaite à la fois qu'il soit lapidé et enterré, parce que les pierres, enseveli si l'on veut, ou couvert de pierres, parce que les pierres de la lapidation sont aussi les pierres du tombeau. Ici. Mais ce passage est un petit peu particulier, mais naturellement fait part d'une pulsion de mort, enfin une pulsion fratricide dans le cas présent, puisqu'Hector parle à son frère.
Il y a dans votre livre La mort rouge, Bernard Haigh, vous expliquez beaucoup, puisque c'est dans le sous-titre, sur la question de la souillure en Grèce ancienne. C'est votre thèse, c'est la place de cette souillure, justement, de l'homicide ou de la mort violente, en tous les cas. Et vous dites, vous êtes visiblement un de ceux qui pensaient que, par exemple, cette souillure dont on pensait qu'elle n'était pas présente dans les œuvres d'Homère, eh bien, vous dites, si, moi, je la retrouve dans les œuvres d'Homère, et cette question de la souillure, qui est quelque chose d'assez fondamental, visiblement, dans cette Grèce ancienne, vous la détectez, en tous les cas, dans les textes homériques, là où d'autres ne la voyaient pas. Ça veut dire que, donc, on peut lire différemment ces textes, pas simplement pour des questions de traduction, mais peut-être aussi avec la façon dont on envisage ce qu'était la question de la violence et de la guerre en Grèce ancienne.
Oui, alors j'ai essayé de montrer dans La mort rouge que la souillure, contrairement à ce qu'on pense, est certainement déjà présente chez Homère. Enfin, il y a un certain nombre d'indices, notamment l'expression qui est quand même très parlante, « Arès miaiphonos », qui veut dire « Arès souillé par le meurtre », alors qu'on a généralement estimé que ça n'existait pas, que c'est quelque chose qui apparaît auparavant.
Qui apparaît plus tard.
Plus tard. Alors la souillure, c'est quelque chose de très particulier. C'est un peu le fil rouge de mon ouvrage.
C'est malheureusement le cas de le dire. Effectivement, il y a beaucoup de sang qui coule.
Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas non plus un concept. C'est quelque chose d'assez particulier et qui, du point de vue psychologique, pour simplifier, est l'image de la mauvaise conscience, bien sûr, et du remords.
De la mort.
De la mauvaise conscience, du tueur.
De la mort qu'on commet.
De la mort qu'on commet. Et là, que ce soit à la guerre ou à la guerre ou dans l'homicide à titre privé.
Patrice Brun.
Oui, il y a en fait chez Homère une sorte d'esthétisation de la guerre. Et on peut dire que l'esthétisation de la guerre a en grande partie caché ce côté souillure de la
violence.
Guerre, bien entendu. On a voulu retrouver dans Homère, je dirais, que la beauté des vers, la pulsion très forte qu'il y a, enfin, qui dans laquelle on retrouve tous les combattants. Mais derrière, il y a la mort en permanence. Il y a la mort en permanence. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, qu'on a tendance un petit peu
à édulcorer,
parce que, effectivement, c'est bien écrit et c'est le danger de la belle écriture.
Mais il y a autre chose. Chez Homère, la mort n'est jamais anonyme. Il y a aussi une manière de... Il nomme, je crois, vous aviez compté qu'il y avait 240 tués qui étaient nommés. Donc ça rend aussi une humanité à cette guerre.
Oui, mais il tombe parfois par mille.
Oui. Cela, il ne les sait pas.
Voilà. Donc, si vous voulez, il y a effectivement les héros, les grands héros, les héros de seconde catégorie, et puis ceux qui sont frappés par toutes les flèches et tout, et qui meurent et qui tombent par mille.
Oui, Bernard Haigh, sur cette distinction entre guerriers qui méritent d'être nommés, puis évidemment la masse des soldats anonymes qui périssent dans l'affrontement devant Troie.
Oui, là, je pense qu'il n'y a rien à dire, sinon que Homère fait vraiment état de la guerre en tant que carnage, en tant que véritable hécatombe. Et je pense qu'on a tendance aussi à oublier qu'il y a un réel message dans l'Iliade de la part d'Homère qui est un refus de la guerre.
Vous voulez dire que c'est un pacifiste ?
Ah oui, à mes yeux, c'est sans doute le premier pacifiste. Il y a beaucoup
Je vois Patrice Brun qui n'est pas aussi sûr que cela de ce qualificatif.
Quand il parle à plusieurs reprises du kakos polemos, oui. C'est-à-dire de la guerre mauvaise, quand il parle de la grande bouche de la guerre qui dévore des combattants, et n'oubliez jamais que, si vous voulez, pour Homère, c'est une nécessité, la guerre. C'est une nécessité malheureuse. C'est un accident terrible qui est imposé à l'humanité. Mais il faut l'éviter, il faut la fuir. Voilà le message d'Homère.
Patrice Brun.
Il faut en sortir vivant.
L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement détester la guerre, trouver la paix très belle et valoriser toutes les qualités qui font un bon guerrier. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante à voir. Et pour évoquer, je dirais, l'aspect anonyme, Ce contre quoi, précisément, s'est battu, si je puis m'exprimer ainsi, la démocratie athénienne, c'est justement de nommer les morts. Lorsque, à partir de, probablement de la bataille de Marathon, tous les soldats, tous les citoyens tombés au combat au cours d'une année ont leur nom gravé sur les stèles.
Et ça, c'est, si vous voulez, c'est que chaque citoyen mérite d'être nommé dans sa mort pour la cité.
Exactement. Et ça, c'est une chose, si vous voulez, qui, d'une certaine manière, fait des citoyens athéniens tous des héros, puisqu'ils sont désormais nommés.
Bernard Aigoul.
Pensons aussi comment finit l'Iliade. L'Iliade finit par les funérailles de Patrocle, une trêve entre les combattants, et à la fin, les funérailles d'Hector. Donc ça ne finit pas du tout dans la violence. Ça finit dans une atmosphère apaisée. C'est même important de le signaler, cela.
Mais il y a des gens qui continuent cette histoire, et en particulier, évidemment, on peut penser à Virgile et à son Énéide. On voulait terminer avec ce texte de l'Énéide, donc un extrait du livre second, lu par Éric Herson-Macarel.
Rompu par la guerre et repoussé par les destins, les chefs des Danaïens, tandis que déjà s'éloignent tant d'années, bâtissent sur les plans divins de Pallas un cheval haut comme une montagne. Ils lui assemblent des côtes en poutre de sapin. Ils prétendent qu'ils l'ont voué pour leur retour, et le bruit s'en répand. Ils tirent au sort des guerriers d'élite et furtivement les enferment là, dans les flancs obscurs du monstre. Jusqu'en leur profondeur, ils remplissent de soldats armés les cavités énormes, le ventre. Il est, en vue du rivage, une île bien connue, Ténédos, riche et prospère tant que s'y maintenait le règne de Priam, alors simple baie, abri douteux pour les carènes. C'est là qu'ils se transportent, puis se cachent sur un bord désert. Nous avons cru qu'ils étaient partis, et poussés par le vent, en route vers Mycène. Et donc, tout le pays troyen secoue sa longue détresse. Les portes s'ouvrent grandes. On se plaît à sortir, à voir le camp dorien, les emplacements déserts et le rivage abandonné. Ici, les troupes des Dolopes. Là, le cruel Achille déployait sa tente. Ici, l'emplacement de la flotte. Là, le front des batailles. Tout un parti reste béant devant le funeste objet offert à la Vierge Minerve. Ils admirent la masse du cheval. Et le premier, Timétès, nous presse de la conduire au-dedans de nos murs, de la placer dans la citadelle. Soit trahison, soit déjà que le destin de Troie porta dans ce sens. Lors, accourant le premier, tandis qu'une troupe nombreuse vient après lui, Laocoon, tout enflammé, descend du haut de la citadelle. Et de loin, malheureux citoyens, telle démence est-elle possible? Vous croyez les ennemis partis? Ou pensez-vous que les offrandes des Danaïens soient jamais exemptes d'artifice? Est-ce ainsi que vous connaissez Ulysse? Ou bien dans cette charpente des Achéens enfermés se cache, ou bien c'est un engin fabriqué contre nos murs pour épier nos maisons et pénétrer d'en haut en notre ville, ou quelque autre piège s'y dissimule. Ne vous fiez pas à ce cheval, Troyen. Quoi qu'il en soit, je crains les Danaïens, même quand ils portent des offrandes.
Voilà évidemment un extrait très célèbre de l'Énéide pour nous dire comment se termine cette histoire dont vous nous dites qu'elle reste d'une façon un peu suspendue dans le récit homérique. C'est formidable de se penser qu'un des plus célèbres passages de cette histoire du siège de Troie nous est parvenu par ce récit de Virgile, parce que je crois qu'il est évidemment dans le récit d'Homère, mais il a tellement été amplifié par Virgile et par son Énéide qu'au bout du compte, on n'en sait plus, et puis par peut-être les auteurs classiques de la Grèce antique, Patrice Brun.
On connaît l'histoire du cheval, donc par effectivement ce que dit l'Aède Démodocos devant Ulysse au moment de son retour, quand il est en fait assis, mais on le connaît aussi par toute une série. Dans l'Antiquité, on le connaît aussi par toute une série d'œuvres qui ont aujourd'hui disparu. Car il ne faut pas oublier qu'il y a un véritable naufrage de la littérature grecque et que cette éphéméride de la guerre de Troie dont je parlais raconte l'histoire du cheval de Troie, et il est probable que Virgile s'en est inspiré à ce moment-là.
Bernard Eck.
Timéo Danaos, Dona
Ferentes.
Alors, l'épisode, comme ça a été dit tout à l'heure, est rapporté effectivement dans l'Odyssée et pas du tout dans l'Iliade. Et C'est tout de même intéressant du point de vue des sièges, du point de vue de l'histoire des sièges, parce que ici, ce qui est utilisé, c'est finalement la ruse.
Oui.
Et à l'époque historique, classique, il y a deux éléments qui entrent en compte souvent dans les sièges, c'est la ruse et la trahison. Mmh. Donc en ce sens, et on peut rectifier quelque peu ce qui a été dit précédemment, on peut bien parler d'un siège de Troie, mais il n'y a pas eu investissement, il n'y a pas eu assaut contre les murailles. De toute façon, il n'y avait pas de catapultes, il n'y avait pas de machines de guerre, machines de siège. Tout cela est
utilisé. Ça vient beaucoup plus tard. C'est quoi, c'est le 4e siècle ?
Fin 5e, début 4e siècle. Le premier grand siège, c'est le siège de Samos en 430 par Périclès. C'est là où on utilise des balistes, des engins. Et la catapulte, elle est inventée, croit-on, par Denis l'Ancien, fin du 4e siècle en Sicile. Et donc, il n'y a de toute façon pas de machines de siège. Mais on peut utiliser la ruse ou la trahison, comme c'est le cas ici, la ruse avec le cheval.
C'est formidable de conclure cette semaine sur l'histoire des sièges militaires en se disant tout compte fait que ce qui nous apparaît comme étant le plus ancien siège dans notre récit mythique, en fait, n'en était pas un. Hein, c'est ce que vient de dire Bernard Frec. Et c'était tout sauf un siège tel qu'on l'imagine ensuite, en tous les cas.
Oui, c'est tout sauf un siège tel qu'on l'imagine, je dirais, avec des grandes machines et tout. Mais dans l'histoire grecque, il y a un siège qui domine, c'est le siège de Rhodes, à la fin du IVe siècle, où là, on a, je dirais, un siège, si je puis m'exprimer ainsi, dans toute sa splendeur, avec des machines, avec ce qu'on appelait des hélépoles, des tours mobiles qui étaient plus hautes que les murailles et qui permettaient comme ça d'envoyer des armes à l'intérieur de la ville, des grosses balistes et des pétroboles. Mais effectivement, nous n'avons pas ça du tout à Troie. Encore une fois, là, il y a un décalage de plus de 2 siècles et demi entre les premières machines, entre Homère et les premières machines.
Oui
ce n'est pas un siège, mais l'enjeu, c'est quand même de prendre Troie.
Oui, voilà.
Mais la prise de Troie se règle par une bataille. Et n'oubliez pas, une des épithètes qui est appliquée souvent à Ulysse, c'est le preneur de ville. Ulysse est le preneur de ville. Et d'ailleurs, pendant quelques temps avant l'Iliade, il y a ici ou là des petites villes qui sont prises par... Mais seulement, une ville se prend par une bataille, après une bataille.
Et pas uniquement dans l'Iliade, pas uniquement à Troie, puisqu'on peut dire jusqu'au milieu du 5e siècle, le sort d'une cité dépendait d'une bataille qui se faisait très souvent dans une plaine en contrebas de la citadelle. Et ensuite, la ville n'était pas forcément prise, mais la cité, elle, était vaincue.
Merci Patrice Brun et merci à vous Bernard Rec de nous avoir bien éclairé sur ces questions de ce siège de Troie, de cette histoire complexe effectivement et mythifiée. Et merci à vous donc Christelle Polotek d'avoir participé à cette émission, d'avoir préparé toute cette semaine avec nous et d'avoir réalisé ce reportage dont je rappelle qu'il était avec Tiphaine Carcinti. Le mythe de Troie dans les théâtres français, c'est chez Honoré Champion. La bataille de Marathon, ça vient de paraître chez Larousse, c'est de votre signature, ça fait quelque temps. Deux ans, Patrice Brun. Et puis, on pourrait aussi citer ce livre pour lequel vous étiez déjà venu à la Fabrique de l'Histoire sur l'orateur d'Emade. Là aussi, on était autour d'une question de mythe. Et Bernard Hecq, vous venez tout juste de publier donc aux belles lettres dans la collection Études anciennes, La mort rouge, homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne. Bernard Nalnien était à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation.